Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. On est au mois d'août 2026 et donc vous étiez en vacances, vous avez peut-être loupé toutes les news concernant le développement, l'IA, etc. Et pas de panique en fait, puisque nous, on n'était pas en vacances et du coup, on va vous résumer tout ça. Et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde. Et oui, on va tout résumer, l'explosion qu'il y a eu cet été. Vous avez peut-être raté... la grosse vague du Rust, mais à mon avis, on l'a tous vu venir. Il y a plein de choses qui ont été réécrites en Rust, beaucoup plus rapides. On va parler de harnais, on va parler de modèles frontières avec les open weight, on va parler de la révolution GitHub qui s'effondre avec des nouveaux acteurs. À quoi ça sert? Pourquoi il faut repenser le système Git? On va parler de petits tools qui nous facilitent la vie quand on crée des agents. Comment on fait pour suivre notre consommation de sessions, notre consommation de tokens? Où est-ce qu'on en est par rapport à nos crédits? On a des outils pour ça. On va parler de solutions open source pour venir remplacer Google Analytics en mode un petit peu plus clean. C'est le programme de cet épisode de news. On attaque tout de suite, Patrick ?
Ouais, c'est parti.
On attaque tout de suite avec un acteur qu'on connaît plus pour la musique, Spotify. Ouais. Mais là, en fait, l'équipe de Spotify revient avec une solution de harnais qui s'appelle XIRP. X-I-R-P. Et clairement, c'est un harnais. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi ils ont fait ça?
Alors, on a, là, dans l'épisode, on aura plusieurs news qui feront... Alors, tu vois, c'est ce genre de news. Tu sens que c'est les news qui sont faites pour exister, en fait, dans ce... En fait, comme c'est trusté par les providers, IA, OpenAI, tout ça, machin, les mecs n'existent plus. Donc, ils essaient de sortir des outils pour parler d'eux, en fait. Et c'est le sentiment que j'ai avec... Parce que Spotify, sinon, t'en entends jamais parler, en fait.
Ouais, c'est de la musique, c'est pour les podcasts. Nous, voilà. on l'utilise, on publie, mais c'est clair que dans l'environnement tech dev, ouais, ils ont rien à faire, quoi.
Ouais. Bah pourtant, ils sortent quand même des trucs. Hein, avec certains... Et puis, ils ont beaucoup d'ingénieurs, je crois qu'ils sont 1300 ou un truc comme ça. Oui. Et du coup, ça fait plusieurs mois qu'ils se targuent de dire que leurs ingénieurs n'écrivent plus de lignes de code, etc. Mmh. Donc, en gros, ils viennent de rendre public cet outil XIRP-là qui est un environnement de développement. Et comme ça existe déjà partout, on en a déjà plusieurs qui existent. Mais celui-là, alors, ils avancent comme quoi... Déjà, il est multi-agent, donc tu peux mettre Cloud Code, tout ça, machin. Il gère plusieurs agents nativement. Il n'est pas lié à un seul. Et il y a surtout un système de compte. Alors, je n'ai pas approfondi à fond, mais le gros point fort, en fait, en gros, c'est que tu vas lancer une session. Donc, tu as ta mémoire, tout ça, tu lances ton code, machin. Et en cours de session, déjà, tu peux changer d'agent. C'est sur Codex. Et puis, en cours de truc, tu peux passer sur Cloud Code. Voilà. Okay. Et il récupère toute la mémoire et tout ça. Donc, tu peux changer. Pourquoi? Peut-être, je sais. Il y a sûrement une raison, on va dire.
Ouais. Ils ont leur raison, on va dire. OK.
Voilà. Et après, il y a aussi, tu peux forquer aussi un truc et récupérer de la mémoire. Et pareil, j'ai travaillé avec un autre agent, tout ça. Donc, en gros, c'est multi-agent, multi-contexte. Ça partage, ils communiquent entre eux, etc. Donc, en gros, c'est vraiment un outil qui est éprouvé, utilisé en interne chez Spotify.
Ils l'ont outsourcé ou alors peut-être qu'ils l'ont rendu public, mais...
ils l'ont rendu public. Je ne sais pas s'il sera payé ou gratuit ou open source, mais à voir, peut-être open source, parce que je vois pas trop l'intérêt de le faire payer, mais il y a une petite contrainte, c'est que quand tu veux l'utiliser, il faut un compte Spotify, tech Spotify ou un truc comme ça, pas ton compte Spotify de musique, c'est un autre compte tech. Technologie.
C'est pas non plus contraignant, quoi. Ouais. Encore un harnais qui sort, à voir si l'interopérabilité entre les agents amène une réelle plus-value ou pas. Je vais pas dire qu'il y en a plein qui pop un peu en ce moment, des solutions harnais en mode terminal, en mode multi. En fait, chacun va essayer d'avoir cette petite particularité pour justifier en fait sa singularité. Mais à la fin, je ne sais pas s'il n'y a pas trop d'outils par rapport au réel marché, quoi. Je ne sais pas.
Ouais. Alors, j'ai oublié un truc aussi dessus. je rajoute un petit point. Après, je ne fais pas la pub, hein, je m'en fous. Mais c'est le truc, il est capable de se connecter à différents services pour récupérer en fait tout ce qui est service, documentation, etc. Et comprendre en fait vraiment le projet, comment il s'articule, tout ça, donc prendre les bonnes décisions, tout ça. Donc voilà, il y a vraiment... Ouais. Je pense qu'il est pas mal en fait pour travailler en équipe, tout ça, en entreprise, pour des gros projets, tout ça. A l'air d'être... En tout cas, il l'utilise en interne, donc c'est que c'est du solide.
Ouais,
ça me semble pas mal.
C'est... À voir, à tester par rapport au bon nombre de... de harnais qu'on a, il fait partie de la liste et le fait qu'il soit utilisé par une petite boîte, ça amène quand même
des problématiques,
pas mal de crédit, clairement. Yes, pareil, petite boîte qui œuvre en tout
qui
cas
essaie d'exister.
qui essaye d'exister, ouais, mais qui quand même est vachement proactive sur toute l'émancipation et sur la standardisation des outils IA. Et en fait, il donne la possibilité de créer un web MCP, en tout cas une interface à tous les sites. Comment ça s'articule, ce truc?
Bah, si tu te souviens, on avait parlé dans un épisode, je sais plus lequel, il y a pas très longtemps, de pouvoir tester le web MCP en s'inscrivant sur un truc de Google. Là. J'ai oublié le nom, d'ailleurs, je l'ai fait sur un de mes sites. Et voilà, du coup, ton site était compatible web MCP, et tu peux avoir des tests, etc. En fait, là, c'est le même principe. En gros, je sais pas si tu en as, mais moi, j'ai quelques sites qui passent par Cloudflare, donc proxy. Et donc tout passe par les proxys Cloudflare avant de venir sur ton site. Et ben là, en un clic, tu vas rendre compatible web MCP sur ton site, et donc il sera totalement utilisable par des agents.
Excellent. Voilà.
Donc et... via une ligne de code, en fait, il va rajouter un petit peu un script, etc. Et du coup, ça va tout fonctionner. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas encore compatible avec tous les navigateurs.
Ouais, bien sûr. Et c'est à la fois bien et c'est pas bien. Parce que.
le web MCP ou.
Non, le web MCP, que ce standard en fait soit généralisé, c'est vachement bien.
Ouais.
Le fait que ça soit rattaché à une plateforme et que c'est la plateforme qui te donne accès, bah, ça c'est super bien parce que c'est hyper rapide, c'est facile à implémenter. Donc ça fait tout le boulot pour nous. Trop bien. Là où c'est moins bien, en fait, c'est que tu deviens tributaire de ton infrastructure. Et en fait, on se rend compte que l'infrastructure, aujourd'hui, elle amène plein de services pour te bloquer chez... Alors, bloquer, le terme est un petit peu fort, mais pour te retenir chez eux, pour justifier aussi le prix de ta machine que tu payes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Tu vois et donc, c'est là où le standard... c'est top, la standardisation c'est bien, par contre que ça soit fait uniquement chez Cloudflare, comment demain on pourra faire nous-mêmes un système comme ça pour rendre le site un peu compatible, là ça serait super intéressant, mais en tout cas sans doute ils œuvrent pour ça, ils œuvrent et en tout cas c'est les premiers acteurs qui font ce move là et je trouve ça vachement bien, c'est top. En trois lignes de commande, voilà, on rajoute un script et chacun.
Non, même pas, c'est eux qui rajoutent. Rien à faire.
Ah ouais, c'est eux qui rajoutent.
Ouais, c'est réécriture du HTML en fait. Il y a une fonction qui réécrit le HTML qui sort.
Ah ouais.
Et du coup, ça rajoute eux-mêmes le truc et tout. Non, c'est pas mal.
Ah ouais.
Mais oui, c'est clair, c'est pour garder captifs les clients. Et après, le service Cloudflare est très très bon. Hein. Quand tu le mets en proxy, t'as pas mal de blocages d'attaques, etc. Sur des sites WordPress, tu peux les sécuriser à la volée. Enfin, il y a plein de trucs hyper intéressants. T'as même depuis dernièrement, t'as les visites, t'as tous les stats et tu peux bloquer les robots IA, tout ça machin. Donc il y a énormément de choses qui sont disponibles. Donc c'est un bon service.
Et pour un prix,
j'ai pas trouvé d'équivalent.
Et pour un prix, c'est pas cher quoi. Pour pas cher.
Bah, t'as du gratuit et après payant pour si tu veux des fonctionnalités supplémentaires, mais déjà en gratuit t'as pas mal de choses. Et aujourd'hui j'ai pas trouvé d'équivalent à ça en fait dans d'autres trucs.
Avec une couverture de service équivalente, c'est sûr et certain. Donc, très très bon. Très très bon.
Ouais.
Allez, on reste chez Claude Flair avec Kitesurf, qui, pour le coup, c'est un navigateur, mais orienté agent first.
C'est un navigateur qui tourne dans les Cloudflare Workers et qui est headless, tout ça, hyper... alors, il est écrit en...
Zig.
Rust ou Zig. Zig, je crois. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant qu'il... alors, après avoir Bun qui a arrêté le Zig, il y a pas mal de trucs qui sortent en Zig, donc c'est assez drôle.
Ouais,
et, c'est la en fait, il est hyper light, peu de mémoire, etc. Et il tourne sur le worker, donc du coup, si tu as un agent qui tourne, il peut appeler le navigateur, l'utiliser, naviguer, et puis voilà. Hyper léger et tout.
Ça, c'est top. Est-ce que cette techno, elle est pareille, c'est uniquement sur leur worker à eux, ou tu peux utiliser ce moteur, en fait, Kitesurf, là, sur n'importe quel worker
pour Edge, l'instant, je crois que c'est worker. Que chez eux.
Okay.
Je crois que pour l'instant, c'est que chez eux. Mais après, à vérifier, je pense... À voir. C'était là, il est encore en bêta, je crois. Hein, mais,
okay.
À voir, mais peut-être ouvert à d'autres, si je dis pas de conneries. Mais non, pour l'instant, c'est vraiment c'est sur le worker et ouais, c'est bêta gratuite via Browser Run. Ouais, voilà. Ouais, c'est une bêta gratuite. Voilà. Après, non, ça sera peut-être payant aussi. Hein.
Ouais, peut-être, mais rien que le fait de supprimer en fait tout l'écosystème Node, Chrome, Puppeteer et tout ça, tout, bah ouais, c'est vachement plus léger, beaucoup plus facile à utiliser. Et
ils annoncent 3 à 7 fois lourd. Plus économe, 3 à 7 fois plus économe en CPU et en mémoire que Chromium. Donc vraiment beaucoup, beaucoup.
Top. Top.
Rien à voir.
Cool ça. Top. Mm. Allez, on a vu sortir un nouveau verbe, une nouvelle méthode utilisée sur les requêtes HTTP. On connaît tous les GET, on connaît tous les POST. Et en fait, il y a une nouvelle méthode qui est sortie qui s'appelle QUERY. Et comment on pourrait qualifier ou en tout cas expliquer l'émergence à part le fait que c'est GET et POST qui ont fusionné pour faire un truc query. C'est un peu ça.
Bah, hein, c'est ça, en fait. C'est le meilleur de POST et de GET qui ont fusionné. Donc, du coup, on en discutait juste avant, mais il parle beaucoup en exemple des recherches ou des filtres, des trucs comme ça. La plupart du temps, on avait du mal à choisir, est-ce que je fais un GET avec les paramètres ou est-ce que je fais un POST et j'envoie ça dans le body. Voilà, c'était pas vraiment le POST, c'était pas vraiment adapté, tout ça machin. Et ben en fait, query permettra d'envoyer via un GET des informations sans limitation, etc. Donc, ce sera beaucoup plus adapté à l'utilisation qu'on en fait.
Et
tu auras du cache aussi, surtout. Ouais, c'est ça aussi. Il y aura la possibilité de mettre en cache, etc.
Exactement. Ça, et en fait, le gros avantage de tout passer par des query paramètres, bah, c'est que tout est dans l'URL. Tu peux partager ton URL, tu refresh ta page, tu récupères ton contexte avec tous tes filtres, tout ça. Par contre, tout est dans l'URL et parfois tu peux arriver à une certaine limite. Donc tu dis, ok, bah, tu vas passer en POST et donc tu mets un body. Donc tu mets tous ces paramètres, sauf que bah, tu peux pas le cacher, tu peux pas l'optimiser, et donc il y a ce problème en fait d'idée potente qui arrive, et en fait GET les POST ne l'est pas, et donc en fait c'est un peu plus compliqué. Donc cette fusion en fait, je pense que c'est vraiment pour les recherches, d'où son nom, hein, qui est vraiment intéressant. Par contre, j'ai pas regardé la couverture. Est-ce qu'on peut déjà utiliser ça ou pas encore? Est-ce que tous les navigateurs est-ce que c'est natif?
Ouais,
les
navigateurs,
ou
c'est pas un... Oui, les navigateurs, c'est pas un problème et ça sera rapide parce que de toute façon, la méthode, tu peux la définir. Après, c'est plutôt le back-end en fait, que tous les frameworks, tout ça, la prennent en charge.
Ça
devrait être implémenté sur les prochaines versions. Disons que ça sera plus rapide que les browsers en fait, puisque les back-ends, bah, les prochaines mises à jour des frameworks, tout ça, bah, petit à petit, ça va se faire et puis ça sera disponible.
Ouais.
Donc, on peut très bien imaginer que dans dans 6 mois, ce sera déjà bien implémenté. Ouais.
Top. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça peut amener pas mal de solutions donc, à regarder et à suivre l'évolution côté back-end.
Ouais, puis ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouveautés au niveau des queries, tout ça, des HTTP, donc c'est pas mal. Ça fait plaisir.
Complètement. Allez, on bascule sur, pareil, un nouvel acteur qui vient dans cet écosystème des analytics un peu open source et surtout privacy first, où on vient essayer de limiter au maximum les informations, ou en tout cas, on vient les anonymiser sans cookies. On connaissait Plausible, on connaissait Umami, Fantôme ou des choses comme ça. Et là, il y a un nouvel acteur qui arrive, qui se revendique IA natif et qui s'appelle Open...
C'est Open Analytics.
Open Analytics.
Open Analytics. Ouais.
Sur le papier, ça a l'air plutôt pas mal, hein.
Ouais, c'est super. Ça a l'air vraiment. J'étais à deux doigts de le tester, puis j'ai dit attends, calme-toi. Ça vient de sortir.
T'es tombé dans la hype.
Ouais, mais tu vois, tu te dis, quand tu vois MCP, machin, tu dis putain, faut que je teste. Ouais. Et puis en fait, non, j'ai dit bon, attends un peu, dans 2 mois, ça sera bon. Et il offre énormément de fonctionnalités. D'origine, il est open source, il est cookie-less, donc du coup, tu n'as pas besoin de mettre de banner et tout ça sur le site. On en discutait juste avant. Moi, j'utilise Plausible pas mal. Pour des sites à moi, tout ça, et du coup, il n'y a pas de cookies, donc pas besoin de mettre des banners sur le site, donc c'est vraiment pratique. Et puis surtout, Google Analytics GA4 est super complexe pour la plupart des gens, même pour moi, enfin moi je comprends rien, donc du coup, c'est bien d'avoir des systèmes beaucoup plus basiques, parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de visites. On s'en fout du reste, en fait.
Bah oui.
Donc celui-là, il offre énormément de fonctionnalités de base, et il est open source et tout, et en plus, il est IA natif. Donc, c'est juste phénoménal, quoi. C'est ce qu'ils offrent. Alors, ça vend du rêve hein, à tester, mais ça a l'air pas mal.
Ouais. Après, tu vois, au-delà des fonctionnalités un peu basiques qu'on a, tu vois, aujourd'hui, où on peut définir un funnel pour aller déterminer, OK, j'ai une campagne avec un UTM, combien j'ai de personnes qui ont acheté, tu vois, voilà, ce système de funnel, ce système de custom event, par quel chemin est passé le visiteur. Évidemment, les campagnes UTM, ça, c'est la base. Moi, ce que je vois surtout aussi, c'est ça, c'est les Web Vitals, où en fait, on va pouvoir traquer quasiment en live en fait, toutes ces métriques-là. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais souvent, quand on vient faire un peu de modif, on vient modifier un composant, on vient charger un peu une page, potentiellement, on peut impacter énormément les Web Vitals sans pour autant y penser, quoi. Enfin, voilà, le flow classique, on fait pas des tests tous les jours sur des Web Vitals. Et en fait, avoir ce type de métrique dans ton système d'analytics te permet en fait de mettre des alarmes en mode OK, là, ben en fait, tout doucement, monter. Et en fait, tu vas te faire pénaliser, quoi, tout simplement. Donc, le fait de traquer ça au sein de ton système d'analytics, parce que ça, en clair, c'est vraiment des boulets que tu traînes au pied. Et donc, le fait que ça soit couplé au système d'analytics, je trouve ça super, super intéressant.
Ouais, c'est clair. Oui, carrément. Ah, mais c'est... Puis du coup, tu peux... comparer, savoir si tu as une baisse de visite, si ça vient de là, tout ça. On en a déjà des rums, tout ça, mais c'est... Par exemple, sur quand tu fais le speed test, c'est que si tu as un site qui a beaucoup de trafic, sinon tu n'as pas de chiffres. Pareil, dans la Google Console, c'est pareil, si tu n'as pas un site qui a beaucoup de trafic, tu as peu de retours. Et puis après, c'est surtout lié à Chrome, tout ça. Donc, tous les navigateurs qui bloquent les cookies, tout ça, machin, du coup, tu n'as pas d'infos. Donc, ouais, là, c'est pas mal de pouvoir l'avoir au même endroit, ouais, carrément.
Carrément. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qu'on va suivre. Mais clairement, tu vois, le MCP serveur, moi, j'imagine déjà en fait coder une interface pour mon client parce que Mon client, quand il voit les chiffres, il est voilà, s'il n'a pas une culture grosse marketing, bon, il va interpréter les chiffres un peu à sa manière. Et le fait de lui donner un chatbox en mode vas-y, pose ta question. Et derrière, ça, on verbalise un peu ça, on retransforme sa question et on balance ça au MCP et il a sa réponse. Ça, je trouve ça vachement bien, quoi. Vachement bien. En tout cas, en termes de feature, ouais, ouais. Il y a un truc à faire, quoi.
Ouais, d'ailleurs, dans les fonctionnalités, t'as aussi il y a un truc chatbot où tu peux poser des questions, j'ai vu. Alors, j'imagine que tu dois brancher ton provider.
Ils l'ont déjà fait. Ouais, trop bien.
Ouais, un peu plus bas, t'as un truc où tu peux poser des questions, tout ça. Donc.
Ah ouais, excellent. Ouais, excellent. Bon, bah, j'avais même pas vu ça. Trop bien. Non, mais pour le coup.
Non, mais après, le MCP, c'est aussi super pratique pour générer des rapports automatiques, tout ça, pour les envoyer. Tout ça. Donc, non, il y a vraiment. C'est hyper intéressant, en fait.
Carrément. On va suivre le sujet, c'est clair.
On va le tester.
Allez, on bascule dans l'univers rustien. Je ne sais pas si ça se dit rusty ou je ne sais pas comment on peut appeler ça.
Rusty.
En tout cas, c'est PMPM 12 qui actuellement, on est toujours en version 11. Par contre, un des leads de chez PMPM nous annonce que la version 12 sera ou en tout cas est écrite en Rust. Elle est en RC, donc en Release Candidate. Autant dire, ça devrait pas tarder à sortir. Par contre, réécriture en Rust, une fois de plus, pour des gains de performance.
Ouais, c'est... Enfin, après, j'ai pas la raison. Enfin, on sait pas la raison. Enfin, il faudrait fouiller un petit peu, mais ouais, réécriture en Rust, donc gain de performance, c'est évident. Puis avoir peut-être un binaire plus simple, tout ça. Donc, ouais, je suis tombé dessus par hasard et je trouvais ça intéressant.
ouais, complet. Après, si y a des gains significatifs, tu vois, sur la rapidité et sur la consommation de mémoire, le chargement, tout, bah, très bien, quoi. Très, très, très bien. Après, je pense qu'ils sont peut-être obligés un peu de se bouger par rapport à tout l'écosystème Bun, Deno, qui sont en train de faire un peu bouger les lignes. Peut-être que là, c'est quand même une surcouche de... Voilà, ça amène plein de possibilités qui sont très, très intéressantes. Donc, ils sont obligés un peu de prendre le train pour ne pas se laisser déborder. Rusty...
Ouais, ce que ne fait pas NPM.
Oui.
Toujours à la traîne.
On est complètement d'accord. Allez, on reste dans l'univers Rusty World avec le React Compiler qui, pareil, est passé sous Rust. Par contre, là, c'est OXLint et OXC, en fait, qui sont à l'origine, en fait, de cette réécriture. En tout cas, non, ils ont utilisé... C'est Rust qui est utilisé pour ça. Et ces outils sont utilisés dans le React Compiler, c'est ça ?
Je résume.
Vas-y, résume. En fait,
le React Compiler a été réécrit il y a quelques semaines, mois. C'est assez récent, hein, en Rust, en fait. Et je suis tombé dessus. En fait, c'est passé quasiment inaperçu. Hein. On n'a pas parlé. Comme quoi, le React Compiler était réécrit. À la base, on en avait parlé quand il est sorti. Je crois que c'était cet hiver. Il était dispo que sur Babel. Donc, truc à choix un peu pas étrange, mais disons que Babel, OK, qui l'utilise encore ? Bon, bah, du coup, obligé de remettre Babel dans ton projet ou s'il n'est pas, etc. Pour utiliser le compiler, et bah, du coup, bon, il aurait écrit en Rust pour gagner, comme tout le monde, gagner en rapidité, etc., tout ce que tu veux. Et là, dernièrement, OXC, donc le compiler qui est dans Vite, qui est basé sur Rust aussi, pareil, vient de proposer le support de React Compiler. En gros, maintenant, tu n'as plus besoin de Babel, tu peux compiler ton React directement dans OXC. Donc, c'est un gros gain, puisque du coup, tu le rajoutes dans ta toolchain habituelle et ça fonctionne. Donc, c'est encore en bêta, je crois, mais bon, c'est quasiment bon. Et dans la foulée, tu as Bun aussi qui a annoncé la disponibilité du React Compiler sur Bun. Voilà. Donc, ça avance. Tu vois, on voit qu'en quelques mois, déjà, le React Compiler est disponible dans d'autres technos. Donc, c'est plutôt cool, puisqu'il y a, a priori, un gros gain de performance quand tu utilises le React Compiler dans un projet React.
OK, top. Et merci d'avoir bien expliqué. je pense avoir n'avoir pas tout compris au départ. Et là, c'était très clair. Merci, top. Trop bien. C'est un peu, moi, ce que je constate, c'est quand même, c'est que c'est un peu inodore, incolore pour nous. Par contre, sous le capot, ça change quand même pas mal de choses. Sur la perf, donc en bout de chaîne, nous on y gagne, voilà, pour faire court.
Ah, il y a un énorme gain de mémoisation, tout ça, pour éviter que les fonctions se rejouent, etc., pour rien, etc. Enfin, il y a vraiment un énorme gain, quoi. C'est très significatif. Et justement, la news d'après, bah, ça explique le changement.
Yes. Et donc, la news d'après, c'est l'équipe de Cursor qui a fait en fait sa migration de Solid à React à cause de ça. C'est ça?
C'est ça, exactement. En fait, ils étaient sur Solid 2, Cursor, donc l'éditeur, hein, l'IDE, plus le... Alors, pour ceux qui n'utilisent pas Cursor, en fait, vous avez la version éditeur avec... l'IA sur le côté, machin. Et il y a aussi maintenant un nouveau panneau en mode agentique où tu vas... Voilà, c'est pur agentique où tu vas poser des trucs, machin, comme Codex, etc. Donc voilà, ça a beaucoup évolué. Pour ceux qui n'utilisent pas Cursor, réessayez pour voir. Mais ça a beaucoup évolué. C'est plus VS Code de l'époque. Ça a beaucoup plus évolué que ça. Et du coup, il était sur SolidJS 2 et ils viennent de faire la migration sur React, en fait. Et principalement, c'est ce qu'ils expliquent dans le truc, c'est grâce pour le compiler, en fait. Le compiler React qui leur fait gagner un énorme gain de performance, etc., de fuite de mémoire, etc., tout ce que tu veux. Donc, un gros switch de la part de l'équipe. Et surtout, derrière, alors j'ai lu ce matin, je disais ça justement, le mec de Solid JS qui a exprimé qu'il n'était pas très content que Cursor ait migré vers React, qu'ils n'en ont pas parlé, qu'ils auraient aimé qu'ils en parlent et qu'ils améliorent comme ça SolidJS, tout ça, pour le faire évoluer, que c'est bien dommage et que bah, il a un peu les boules. Et que voilà.
Bah ouais, parce qu'il perd un gros ambassadeur, quoi. Quand tu dis ouais, Solid est utilisé par l'équipe de Cursor, ouais. Tu pèses dans le game. Et quand justement Cursor annonce que elle quitte Solid, c'est pas des bons signaux.
C'est pas une bonne pub.
C'est pas top.
C'est terrible.
Ce qui peut largement se comprendre, qu'ils soient pas super contents. Donc ça
se tient. Ouais, c'est surtout qu'ils en ont pas parlé, quoi. Si tu veux, ils ont pas annoncé ça au mec en disant bon, on va quitter Solid. Parce que peut-être qu'il aurait pu dire bah écoutez, on va améliorer les choses, tout ça. Parce que Solid, il est quand même assez réactif, les mecs, enfin, les frameworks. Donc.
Après, c'est des choix de CTO. Tu vas pas discuter, tu vas pas négocier. On fait un choix, on y va et on va jusqu'au bout, quoi. Allez, on en avait parlé en mode au moment où c'était annoncé en mode un peu early. Cursor, justement, vient avec une gestion de ses repos Git et de tout son historisation. Ça s'appelle Origin. C'est sorti de manière officielle ou en tout cas en bêta maintenant. Donc, on peut déjà l'utiliser. Le site de la doc a été mis à jour et ce qui est intéressant de comprendre, c'est pourquoi en fait GitHub aujourd'hui touche sa limite et Cursor se sent obligé de créer une alternative parce qu'il ne s'y retrouve plus.
Bah, Origin déjà, alors je l'ai testé, alors c'est ouvert, c'est en early beta pour les abonnés à Cursor. Donc, du coup, on y a accès.
Oui,
tous les deux. Alors, moi, j'ai testé parce que, du coup, tu peux importer des repos GitHub. J'en ai migré 3-4. Du coup, c'est un miroir, en fait. Donc, ce que tu vas faire dans Origin, ça va se répercuter automatiquement chez GitHub. Et alors, je ne sais pas ce que tu en penses d'Origin. Moi, j'étais assez déçu.
personnellement. En fait, pour l'instant, moi, j'ai pas vu le major move, si tu veux. Tu vois, je vois voilà, pas l'intérêt. Par contre, là où j'avais de la frustration, où c'était chiant, c'est quand je voulais initier un repo dans mon curseur sur mon téléphone ou dans mon truc agentique. En fait, j'avais un système de no repo. Tu vois, tu fais bah ouais, mais moi je veux quand même traquer, si tu veux, cette tous les commits que je vais faire, mes PR, tout ça. Donc il fallait que j'instancie mon repo sur l'appli GitHub, que je retourne dans mon appli Cursor pour aller récupérer, fetcher le projet vide. Tu vois, t'es là, tu fais bah non, en fait, ça n'a pas de sens. Et donc, si tu veux, ça, ce système-là, ce workflow était pas top. Était vraiment pas top. Okay. Donc, le fait que tu puisses instancier un repo Git depuis ton curseur, moi, je trouve ça vachement bien. Que ça soit stocké sur Origin, très bien. Après, en fait, le réplica entre GitHub et Cursor, et Origin, pardon, il se tient. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire un switch l'un ou l'autre. Tu es obligé de faire l'un et l'autre. Donc, en termes de business et de relations, tout, bah ça, c'est complètement logique. Mais le fait que ça soit un miroir, moi, je comprends que potentiellement, en fait, si tu as plein d'agents, parce que nous, on bosse tout seul ou au pire, on est deux ou trois sur le projet. Mais si tu es une grosse équipe, tu es tout sur un monorepo, en fait, ton nombre de commits et de branches explose. Et est-ce que ça arrivait à sa limite? Je ne sais pas. Le jour où Origin sort, bizarrement, GitHub est en PLS, GitLab était en PLS deux jours avant. Tu vois, est-ce que synchronisation des calendriers, je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait de mettre en avant le nombre de PR qui sont auto-pushés, tout ça, est-ce que ça vient perturber le workflow chez GitHub? Je ne sais pas. Est-ce que Origin, en fait, a été pensé plus pour supporter cette charge de pull request parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de commits et de pull request? Je sais pas. L'avenir nous le dira, tu vois. Après, ce qui est sûr, c'est que le move me paraît pertinent et le fait de s'affranchir de GitHub, ça se tient aussi en termes de business. Pour nous, développeurs, je pense que ça va pas changer grand-chose à part le fait que potentiellement, on pourra créer des repos à la volée directement depuis notre interface agentique et ça me plaît.
Ouais. Moi, j'ai alors c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, ton truc de repo de création, mais parce que c'est pas un truc que je passe beaucoup. Mais après, je trouve que très déçu. Annonce, Origin, machin, Visual. Et puis quand tu l'utilises, en fait, d'ailleurs, ils ont pris un scud de GitHub via X en disant c'est juste un wrapper de GitHub. Bon. C'est pas faux en même temps.
Ouais,
pour l'instant.
N'oublions pas que le.
Pour l'instant, on va dire.
N'oublions pas que, tu vois, que les punchlines sur X, en fait, ça fait du buzz. Et puis, Origin a dit bah ouais, mais regardez, vous étiez en PLS hier. Donc, en fait, si tu veux, il faut sortir de Twitter X où c'est de la trash. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être un manque de maturité qui est clairement annoncé sur le fait que quand ils disent early beta, voilà, ça veut dire que on en est qu'au début. Évidemment, c'est un wrapper. Demain, ils vont peut-être aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, ils ont plus d'agilité que GitHub. Même si GitHub a une myriade de développeurs, ils ne peuvent pas bouger aussi vite. Ils ne peuvent pas refondre leur infrastructure, leur technologie aussi vite. Et donc, on redit tout le temps la même chose. Mais là, Origin arrive après. Donc, ils ont, ils ont un avantage. C'est que, un, ils savent coder vite parce que ils ont des agents pour ça, mais surtout ils peuvent construire une architecture pensée IA natif, alors que GitHub, en fait, c'est horrible de dire ça, mais vient de l'ancien monde et donc en fait à sa propre limite parce que bah il y a 20 ans d'historique, tu vois, donc ouais. Ils doivent construire avec cette architecture. Origine arrive avec Greenfield, ces terrains tout verts, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et architecturer les choses de telle manière que ça supporte. Donc si tu veux aujourd'hui, aujourd'hui c'est un wrapper, ouais, clairement. Demain peut-être que le move il sera un petit peu plus intéressant.
Oui, pour l'instant c'est pas super flagrant. Bon, après c'est pratique quand tu utilises Cursor machin, tout ça c'est clair. T'as des PR machin, si t'as des commentaires tu peux cliquer directement, ouvrir, corriger dans Cursor ou corriger dans le cloud, enfin voilà, il y a plein de trucs qui sont intégrés. Donc en gros ils font un écosystème de développement complet, donc on va avoir plein de trucs, tout ça. Après pour ceux qui n'utilisent pas Cursor aujourd'hui, vous emballez pas, vous perdez pas grand chose pour l'instant. Ça va certainement évoluer beaucoup dans le futur. Moi je m'attendais à un truc plus agentique que ça, tu vois, mais bon, okay. On va dire que c'est très bien déjà, hein. Mais alors après pour défendre GitHub, je fais l'avocat du diable. Je trouve que quand même ils ont bien bossé pour intégrer Copilot et compagnie, qui s'appelait pas Copilot à l'époque. Si, ça s'appelait toujours Copilot d'ailleurs.
Ouais, c'est
je trouve que c'est bien intégré aujourd'hui tout ça. Franchement, c'est pas mal. Ils ont quand même bien bossé. Après, je pense qu'aujourd'hui, que ça soit GitHub ou même Google, ils se font défoncer par l'IA en fait. Je pense qu'ils ont une charge sur les serveurs, tout ça, sur les systèmes, qui est énorme par rapport à l'IA. Le nombre de projets qui doivent être créer, abandonner, etc. C'est juste... Enfin, faut pas oublier que, par exemple, moi, perso, je paye pas GitHub. Donc, je peux pas leur jeter la pierre non plus.
Ouais.
Donc, voilà, je pense qu'ils ont beaucoup de mal à cause de ça, l'IA, le nombre d'issues qui sont ouvertes, de pull requests, etc. Et je vois du côté de Google, c'est pareil. Aujourd'hui, Google, la cherche console, elle est complètement à la ramasse, en fait, parce que je pense qu'il y a tellement de sites qui sont créés en IA.
Qui la tapent dans tous les sens. Indexer,
en fait. Ouais, mais c'est un truc de fou, en fait. Ouais. Aujourd'hui, ça met super longtemps pour indexer un site et tout ça par rapport à il y a quelques mois. Donc, je pense qu'ils se font défoncer.
Mais donc, tu vois, je serais pas surpris que la Search Console demain en fait devienne payante ou tu vois, ou soit régulée via des accès avec des sortes de rate limits authentifiées et tout quoi. Parce que clairement aujourd'hui c'est peut-être un sujet qu'on pourra aborder un jour, mais le SEO via agent et envoyer des agents pour te faire des rapports SEO pour voir où est-ce que t'en es sur tes SERP, enfin tout ça, la Search Console se fait défoncer quoi. Donc clairement c'est pas une situation viable à mon avis dans le temps. Peut-être que Google va rajouter des machines, hein, tu vois.
Il y a même l'indexation des sites aujourd'hui, elle est beaucoup plus longue. Tu lances un site, avant il fallait 2-3 mois pour que le truc il soit correctement indexé tout ça. Et tu avais des rapports et tout. Aujourd'hui, tu lances un site, c'est hyper long. Il met très longtemps à venir indexer ton site. Enfin, c'est juste fou, en fait.
Move compliqué.
Mais c'est vrai, mais GitHub, justement, tu as raison. De toute façon, GitHub, je pense qu'ils sont... Enfin, aujourd'hui, et c'est justement le sujet d'après, c'est pas mal de devs aujourd'hui par rapport à l'IA, enfin, de boîtes, disent GitHub est trop lourd pour les agents IA. Donc, on commence à avoir des alternatives. Donc, mais ça, je suis tombé dessus par hasard sur un podcast. Je sais pas si vous suivez pas Mastra, c'est le framework JS pour faire de l'agent, tout ça. Ils ont une chaîne YouTube où, alors déjà, ils font un épisode toutes les semaines sur l'IA, tout ça, donc qui est vachement intéressant. Déjà, parce que c'est vu des États-Unis, de Californie, donc c'est très intéressant.
Et pour ceux qui n'écoutent pas en anglais, bah, vous pouvez suivre et vous abonner. /, parce que nous, on écoute et on traduit et on le redit dans notre podcast. Donc, en clair, restez chez nous et puis vous aurez l'info en français. C'est cool, non?
Ouais, non, mais... cliquez sur le petit pouce.
Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. Un petit like, un petit commentaire. Vous connaissez la musique, les gars, bien sûr.
Et mais ça, donc en fait, c'est un nouveau système. Et donc ils ont fait un épisode là-dessus. Donc le mec qui sont en train de créer ça, ils sont en Californie évidemment. Ils sont en train de créer ça en disant GitHub aujourd'hui c'est trop lourd quand tu fais des comment ça s'appelle des work trees là dans ton agent. Bah, ça te duplique les trucs et du coup c'est lourd, ça te duplique les nodes modules, tout ça, c'est ton truc, ton disque dur il est complètement saturé, tout ça, donc c'est pas forcément la bonne solution, etc. Donc eux ils proposent ce nouveau système de versionning qui est voilà, qui est en early access, tout ça, mais qui va, ton agent va pouvoir utiliser uniquement les fichiers dont il a besoin. Et après, ça va gérer le merge, etc. correctement. Donc, c'est tout un nouveau système, tu vois, repensé. Et en gros, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il va falloir repenser tout le système de GitHub et tout ça par rapport aux agents, en fait.
Alors, par contre, est-ce que c'est quand même basé sur Git ou c'est autre chose?
C'est différent de Git. Alors, pour l'instant, c'est difficile d'expliquer le truc parce que je ne le connais pas super bien et je ne l'ai pas utilisé. Mais okay. C'est un système de gestion de fichiers à la Git, mais ça remplace pas forcément Git parce qu'on voit sur un schéma qui peut être branché aussi à Git. Mais okay. Par contre, quand tu fais, alors il donne un exemple, alors que ça soit pour le coding ou autre chose, hein, il donne un exemple d'un site qui serait là pour générer des contrats pour des juridiques ou des trucs comme ça. Et donc en fait, et tu pourras avoir différents agents qui travaillent sur le même contrat et à la fin, ils arrivent à merger les trucs et tout pour que ça soit clean et tout ça.
Okay. Et en fait, c'est donc pour résoudre aussi ce conflit en fait de...
Ouais, conflit, gestion, rapidité.
Quand il y a plusieurs
rapidité.
Agents qui viennent taper sur le même fichier, potentiellement, il y a des conflits de version Git et donc ça pose problème parce que Git n'est pas pensé pour ça, pour les agents. Et donc, il faut une intervention humaine pour faire un arbitrage. Et donc, ce système de versionning de fichiers, en fait, permettrait une sorte d'intelligence sur ce edge case.
Il n'utilise vraiment que ce qu'il a besoin. Et voilà, c'est hyper rapide. Ça gère les fichiers lourds, ce qu'il y a du mal, ce que GitHub a du mal, etc. Enfin, il y a plein de trucs. C'est plein de choses corrigées de GitHub, les lacunes de GitHub sont corrigées avec ce truc.
Excellent.
Donc ça, c'est un exemple. Hein. Peut-être que dans 6 mois, ça n'existera plus. Mais c'est un peu sur quoi on se dirige, en fait.
C'est une approche différente parce que Git et par conséquent GitHub, mais surtout le système Git, en fait, touche sa limite. Excellent.
Bah, comme tu dis, c'est l'ancien monde, entre guillemets. C'est le monde
un peu dur quand je dis ça. Hein.
Non, mais c'est ça, en fait. Le truc a été créé pour nous et l'IA, c'est différent. Ça va plus vite, etc. Donc,
il
faut l'adapter.
Yes. Mm. Ça marche. Allez, autre chose qui est en train de bouger, c'est Mistral avec son inférence où maintenant on choisit clairement la région de son inférence parce que juridiquement il y a un impact monstrueux si on est aux États-Unis ou en Europe. Et donc Mistral, qui est boîte française, ok, mais qui a quand même levé pas mal de pognon aux États-Unis et donc qui sont obligés un peu de naviguer dans ces deux mondes-là, et clairement, eux, ils proposent une inférence régionale.
Ouais, grosse nouveauté là qui a été annoncée. Inférence régionale, donc en gros, tu vas pouvoir choisir eu.mistral.ai, je crois que c'est ça, ou us.mistral.ai pour choisir ton inférence, à quel endroit elle est exécutée. Parce qu'il faut quand même savoir que nous, on dit en tant qu'Européens, ouais, souveraineté européenne, tout ça. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est la même chose, en fait. Ils disent la même chose, souveraineté, etc., machin, US et tout ça. Donc, du coup, c'est une problématique qui est partout, en fait. Et donc, ils proposent cette inférence, donc avec tous leurs modèles. Et en plus, attention, ils proposent maintenant des modèles autre que Mistral, dont GLM 5.2, c'est le premier modèle qui propose en disponibilité, donc qui est un modèle chinois openweight, donc qui tourne sur leurs infrastructures et que tu peux consommer comme ça à la demande sur l'Europe en définissant eu.mistral.ai. Donc c'est voilà.
C'est bon ça.
Vas-y.
Et en termes de tarot, c'est quoi? C'est pareil, c'est le même.
Ah, c'est le tarif classique.
C'est le même tarif que Z si tu vas chercher sur le provider. GLM, c'est quoi? C'est Moonshot? Non, c'est quoi?
Non, c'est ZAI.
ZAI.
C'est ZAI, c'est les mêmes tarifs. De toute façon, c'est à peu près, si tu vas voir sur tous les open routers et compagnie, enfin tout ce qui propose de l'inférence, c'est à peu près toujours les mêmes tarifs, définis plus ou moins par ZAI à la base. Et donc, ils sont dans les tarifs classiques, sauf que voilà, pour une boîte qui a des contraintes de privacy, tout ça, européenne, tout ça,
française,
ça peut être intéressant d'utiliser un modèle performant. Je dis pas que les modèles Mistral sont pas performants, je dis juste autre que Mistral, performant.
Ouais.
Donc ça, c'est le premier, il y en aura d'autres certainement.
Bien
à savoir
sûr.
Que, alors, Mistral fait ça, mais ce n'est pas les premiers à le faire. Il y en a d'autres qui le font déjà. Donc, il y a tout ce qui est OVH, Infomaniac, etc., qui proposent déjà de l'inférence avec des modèles open. Donc, voilà, ce n'est pas les premiers à le faire.
Ouais. Bon, allez, je vais faire mon troll. Mais, non, mais en fait, quand Infomaniac ou OVH vendent de l'inférence, make sense. Tu vois, ça me paraît.
C'est pas du gateway. Hein. Attention, c'est vraiment.
Oui, c'est pas du gateway. Gateway ouais, on est bien d'accord. C'est, leur infrastructure, leur machine. C'est eux qui payent l'électricité et c'est eux qui possèdent la machine. On est bien d'accord.
Et ça sort pas. Les infos sortent pas de chez eux.
Ouais, on est bien d'accord. Sauf que ça, en fait, c'est leur cœur de métier. Si tu veux, un Infomaniac, ils ont toujours été. Ils vendent des machines, ils vendent des services à côté de machines, mais leur cœur de métier, c'est quand même l'infrastructure. Ok, sauf que quand Mistral en fait vient sur ce secteur-là, est-ce que c'est pas un aveu d'échec de d'être 100% full provider ou en fait OpenIA ils ont leur infrastructure, ils ont leur modèle, Anthropic ont leur modèle, ont leur infrastructure. Aujourd'hui Cursor qui s'est fait racheter machin, ils ont leur propre infrastructure, ils ont leur propre modèle. Est-ce que Mistral en fait qui à la base voulait jouer en mode pure player qu'on appelle, est-ce que le fait de faire rentrer des modèles open weight dans la gamme, est-ce que c'est pas un aveu d'échec? Tu vois, je sais pas, je pose la question. Je trouve ça peut-être dangereux, dangereux. Après, c'est peut-être aussi une question de survie. Hein. C'est que il y a une demande réelle sur ces modèles open weight et on va en parler tout à l'heure sur justement la qualité de ces modèles open weight qui viennent vraiment jouer et titiller les modèles dits frontières. Je veux dire, c'est cool pour nous. Est-ce que c'est bien pour Mistral? Je sais pas. L'avenir nous le dira. Moi, comme ça, je le vois plutôt comme un aveu d'échec, quoi. Mais peut-être que je me trompe et j'espère me tromper, tu vois, foncièrement.
Je pense que la course au modèle frontière, elle est déjà très compliquée. Il faut beaucoup de moyens et peut-être qu'à un moment donné, ils peuvent pas lutter, en fait.
Ouais, exactement.
Des milliards.
Et je suis le premier à...
Même si la Chine arrive à faire quand même des trucs avec moins d'argent, tout ça, est-ce que... Après, il faut savoir que Mistral, il a quand même un business model qui est tourné vers les entreprises, donc services aux entreprises, etc. Donc, peut-être qu'à un moment donné, ils avaient aussi besoin, pour être cohérents au niveau de leurs services aux entreprises, tout ça, d'avoir aussi de pouvoir proposer d'autres modèles, tout en étant sécurisés, européens, etc. Moi, je trouve que ça va dans les services qu'ils proposent, c'est logique. Après, est-ce que c'est un aveu d'échec sur les modèles frontières? On ne peut pas rivaliser avec les États-Unis ou les Chinois. Peut-être aussi, parce que. Et après, on ne peut pas leur en vouloir, parce que franchement.
Non, bien sûr. Mais.
Cette course au modèle le plus gros, ça a du sens? Je ne sais pas.
Non, mais surtout, c'est même pas une question de modèle, je pense. À mon sens, c'est juste une histoire de putain de gros thunes, quoi. C'est de la thune. C'est en face, t'as Anthropic et OpenIA qui lèvent des milliards, mais des dizaines de milliards. Mistral a fait des très belles levées de fonds, mais c'est des très belles levées de fonds par rapport
française,
européenne. Donc, les mecs en face, ils sont morts de rire. Donc objectivement, on ne peut que féliciter l'action d'ouvrir Open White, machin. Mais malheureusement, j'ai peur que ça signe. En tout cas, c'est un peu un aveu de faiblesse, d'échec, peut-être pas, mais un aveu de faiblesse. Voilà. Et on leur souhaite de continuer là-dedans et d'être à fond là-dedans. C'est trop bien. Parfait, quoi. Ouais. Parfait.
Alors, il y a autre chose aussi, c'est qu'ils vont également ils vont construire aussi 1 gigawatt de capacité de calcul d'ici 2030 en Europe. Donc, voilà, des capacités d'inférence assez énormes. Donc, ils ont compris que l'enjeu aussi, ils l'avaient dit devant la commission, hein, leur boulot, c'est de transformer d'électricité en token. Donc, là, c'est ce qu'ils vont faire aussi avec le centre de calcul, tout ça, transformer par rapport à la demande, transformer d'électricité en token et servir que ça soit des modèles Mistral, des modèles open weight. Voilà. Donc, moi je trouve que c'est logique, c'est cohérent. Voilà. De toute façon, on pourra pas. Enfin, il faut une alternative et bah, l'alternative, c'est Mistral, quoi.
Yes.
Et puis tous les autres acteurs d'hébergement, d'ailleurs, on va en parler juste après, mais voilà, qui proposent aussi de l'inférence haute, parce que voilà, les entreprises des fois ont besoin de l'inférence pour des agents et il faut que ce soit européen.
Bien sûr, bien sûr. Et on parlait d'Infomaniac, d'OVH, on n'a pas mentionné Etzner, qui est aussi un gros acteur, même s'il a monté ses tarots de manière un peu très, très, très significative ces derniers mois.
Ouais.
Par contre, là, je vois API, Free, Openweight, LLM Inference, ça a l'air plutôt pas mal, ça.
Ouais, ils proposent de l'inférence, donc c'est expérimental pour l'instant et c'est gratuit puisque c'est expérimental. Donc pouvoir taper en inférence sur des modèles OpenWeight, notamment actuellement gratuit, c'est Qwen 3.8 27B, donc qui vient de sortir, je crois, qui est assez performant.
Il y a même pas deux semaines, clairement.
Ouais, c'est ça. Et donc alors faut créer un compte, faut mettre sa carte bleue, mais après derrière vous payez rien, hein, c'est gratuit. Donc c'est intéressant pour les gens qui voilà qui veulent consommer du token sans payer, qui ont pas trop de moyens. Et voilà, Esner qui est allemand normalement et voilà. Mais après je vous dis, comme je disais juste avant, il y a plein d'acteurs là-dedans qui proposent de l'inférence avec des modèles OpenWeight et pas forcément hors de prix.
Nice. Allez, AI agent évaluation. Si vous êtes comme nous plutôt fan de Nuxt qui s'est fait racheter par en tout cas racheter ou incuber chez
Nuxt
exactement chez Vercel, comment les modèles en fait vont réagir avec du Nuxt. Il y a un petit classement qui a été fait. La dernière en date, c'est le 31 juillet. On aura sans doute la même chose le 31 août. En attendant, en fait, les meilleurs résultats, c'est sur Kimi K3.
Ouais, ça permet. Il classe vraiment en fonction des tâches sur Nuxt, sur du code Nuxt, tout ça, et donc c'est en fonction des résultats et du prix, du temps. Donc c'est pas mal. Et là, ouais, on voit Kimi K3 qui est en tête devant Fable, donc c'est pas mal. Kimi K3 qui est sorti cet été, qui est assez performant, qui est le modèle OpenWeight le plus gros jamais fait.
Et surtout qui est pas si cher par rapport à Fable, qui est vraiment très 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 cher, quoi. Très très très, très 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 beaucoup cher, donc ouais, cool. Et en fait on constate aussi que derrière un 5.3 codex, il est pas si cher et il arrive sur des bons taux, quoi. Et au-delà de faire du benchmarking, tout ce qui est intéressant de voir sur ce test, en fait, c'est on ne vient pas tester uniquement le modèle sur tous les benchmarks qu'on connaît, où en plus on sait que plus ou moins les benchmarks sont plus ou moins pipés parce que les modèles sont à moitié entraînés sur les benchmarks pour justement passer les tests, tout. Là, en fait, c'est vraiment du concret par rapport à notre utilisation. Et en fait, le fait, si on est développeur Nuxt, c'est trop bien de savoir en fait lequel est le plus pertinent. Et je trouve cette évaluation super intéressante et ça serait cool qu'il y ait cette initiative qui soit aussi faite par d'autres types Laravel, Symfo, Next, pour aller mettre un peu plus de transparence et surtout en mode, si vous êtes développeur Nuxt ou Laravel, en fait, nous, on a fait nos tests et ce modèle-là est super intéressant pour ça. Je trouve ça hyper cool et super assez transparent en plus, tu vois, donc sur le temps d'exécution, sur le coût, sur voilà, donc non, c'est vraiment top.
C'est super intéressant. C'est bien de tester sur du code. Voilà, c'est pas une évaluation sur du classique, c'est vraiment tu te donnes une tâche et fais la tâche et c'est du code et voilà, c'est un vrai truc et c'est une vraie évaluation de ce qu'il est capable de faire. Et du coup, tu me fais penser à un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure par rapport à la migration de Cursor, en fait, le gars de SolidJS qui disait aussi, alors il y a un truc parce que tu me rappelles ça, le mec a dit que c'était dommage qu'ils aient migré sur React parce qu'il disait que l'IA, comme elle est beaucoup entraînée sur du code React, elle favorise en fait la création de projets React, et du coup c'est bien dommage en fait qu'eux-mêmes, voilà.
En fait,
j'avais oublié de dire ça.
C'est la loupe qui s'auto-entretient, et vu voilà. qu'IA a bouffé beaucoup de React, elle va donner plus de React, donc elle est meilleure en React, donc ça va voilà, favoriser ça. React, et il y aura plus de React, et blablabla.
Exactement, c'est ce qu'il a dit aussi.
Après, quand t'es pas content, t'es pas content, donc tu vas utiliser tout pour dire.
Non, mais
que...
il a pas tort, hein, je crois.
Oui, c'est sûr et certain. Yes.
De toute façon, tu le vois, dès que tu prends un langage qui est moins utilisé, des choses comme ça, c'est là où tu vois les baisses de performance de l'IA.
Bien sûr.
C'est grave, c'est un truc de fou.
Bien
un
sûr.
Framework qui n'est pas trop utilisé, un langage qui est moins utilisé que la moyenne, bah, tu vois une baisse de performance au niveau du code de l'IA, c'est flagrant. Quoi.
Ouais, clairement. Clairement. Allez, petite solution qui nous est proposée par Mozilla. On a l'habitude de connaître un peu les rapports annuels State of JS, State of CSS. Et là, en fait, Mozilla revient avec un rapport qui s'appelle State of Open Source AI. Et donc, il vient en fait faire un peu une sorte, on pourrait dire quoi, une analyse, un benchmark un état des lieux pour le coup, très très, très bien, entre les modèles fermés et les modèles dits open weight. Et au-dessus, on est bien d'accord, Opus 5, Fable 5, 5-6 Sol. Là-dessus, c'est les grands gagnants. Par contre, le Kimi K3 de Moonshot en open weight, il est vraiment, mais vraiment pas loin, quoi.
Bah, 4 points derrière, ouais. Il est 4 points derrière. C'est ce que dit, en gros, pour résumer, en 2026, les modèles ouverts rivalisent avec les leaders fermés, en fait, hein, OpenAI et Claude. Et Anthropic, et avec justement 4 points d'écart seulement avec les leaders. Les coûts d'inférence, alors on en discutait tout à l'heure du coût, mais ça, ils disent que ça a chuté de 50% en 3 ans, enfin ils disent x 50, je ne sais pas si c'est très clair, x 50, bah, divisé par 50 en fait, en 3 ans, par rapport à GPT, alors ils donnent le GPT-4 à l'époque.
Les coûts, donc, tu veux quand dire même beaucoup...
Ouais, les coûts d'inférence, ils disent, il y a un bloc là-dessus, les coûts d'inférence ont chuté de 50 en 3 ans, donc on se rend compte finalement, nous on a l'impression que c'est toujours plus cher, mais c'est aussi peut-être qu'on a une grosse utilisation par rapport à il y a 3 ans. Je pense que si, il y a
l'argent
ça aussi qui a beaucoup changé.
Ça c'est sûr et certain.
Ils disent que la Chine impose son leadership sur les voilà sur le, l'open weight, c'est ça c'est clair, on peut pas le nier, et que au-delà des modèles, le vrai défi c'est le harness. Et oui, effectivement, le harness, il peut faire vraiment changer les résultats en fonction de ce qu'on utilise. Donc ça,
clairement, je pense qu'on fera un épisode là-dessus sur justement comment bien définir son harness, comment bien faire ses choix, parce que c'est super important. Et je pense qu'on accorde beaucoup trop d'importance au modèle, alors que même sur un modèle inférieur, mais avec un harnais de top qualité, je pense qu'on aura des meilleurs résultats à la fin. Donc, évidemment, le moteur, le modèle, prend tout son sens. Néanmoins, la répétabilité et vraiment la justesse vient avec le harnais. J'en suis intimement convaincu. Ouais. Mais on fera un épisode dédié là-dessus, je pense.
Ouais. Pour en revenir aux coûts, évidemment, c'est l'open weight qui fait baisser les coûts, hein, mais tu vois, il donne l'exemple de moins 50 en 3 ans, donc de $20 à 40 centimes de dollars pour 1 million de tokens. Donc, il compare par rapport à GPT-4 à l'époque. Donc, il parle de DeepSeek, tout ça, mais il y a vraiment une économie... le coût a vraiment baissé grâce au modèle ouvert. Donc, ça, c'est vraiment important de signaler quand même, parce qu'on a toujours l'impression que c'est plus cher, mais non. Et le harness, quoi, c'est vraiment hyper important. Donc les défis, c'est quoi? Attends, j'avais noté. Je rassure aussi, parce que tu sais, à un moment, on a parlé de... La Chine avait eu... Il y avait une rumeur comme quoi la Chine allait peut-être fermer les modèles, à dire qu'ils allaient arrêter les modèles ouverts.
Ouais.
Et finalement, apparemment, le gouvernement chinois a communiqué en disant que non, ils n'étaient pas du tout dans cette optique-là, qu'ils allaient continuer à faire des modèles ouverts, tout ça, machin. Donc voilà, on est plutôt rassurés sur le fait qu'on aura toujours du modèle à consommer. Donc ça, c'est cool.
Ouais, mais tu vois, là, allez, je bascule dans ma vision boule de cristal, dans ma session boule de cristal. Mais en fait, on en parlait ce matin, Patrick, mais c'est le fait de voir l'émergence de ces modèles open weight par rapport aux modèles fermés, où en fait, ces grosses boîtes en fait vendent le modèle et l'inférence, et l'inférence et le modèle en fait fusionnent, et donc quand tu achètes en fait tu payes le modèle et l'inférence. Eux les Chinois en fait ils ont une autre approche, de dire ok, nous on va faire des modèles open weight et en fait on va te vendre l'inférence, mais tu n'achètes pas le modèle, tu achètes l'inférence. Et en fait à faire ce jeu-là en fait je pense que nous, on y gagne encore sur le prix du token. Il y a quelques mois, j'étais beaucoup plus pessimiste quant au fait que le prix du token allait exploser, qu'on n'était pas sur des prix justes, qu'à un moment donné, il y allait avoir une revalorisation du marché. Et en fait, on constate que bah, ça va toujours, toujours, toujours vers le bas. Donc, en clair, soit pour le même prix, on a plus de tokens, soit on consomme moins. Enfin, voilà. Pour l'instant, on y gagne encore et je pense que c'est dû à la Chine qui doit faire, enfin, à mon sens, hein, son dumping total avec la qualité des open weights qui viennent rivaliser avec les frontières. Et en fait, clairement, les ricains, avec les milliards de dollars qu'ils ont mis sur la table, bah, ils sont pris en étau parce que s'ils montent trop les prix, bah, ça va plus passer. Et en fait, s'ils ne font rien, et ben en fait, les modèles open weight grattent des parts, et comme on le voit sur le rapport. Donc en fait, ils sont pris en étau, et à la fin, c'est nous qui gagnons encore, pour l'instant. Parce que le prix de l'inférence est encore pas cher, tu prends des abonnements, tu peux croquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de tokens, tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour un prix vachement moindre. Et on verra tout à
Bah,
l'heure des petits outils pour nous aider à traquer tout ça. Mais je pense que, tu vois, je suis beaucoup plus positif que je ne l'ai été il y a quelques mois. Ceci dit, dans 3 mois, ça peut exploser, tout peut changer. On est complètement d'accord.
Ah, il faut
Mais
garder en tête que, faut quand même garder en tête que pour l'instant, c'est pas le vrai prix. On ne sait pas quand ça peut changer. Après, on n'est pas à l'abri d'un OpenAI qui se casse la gueule, d'un Anthropique qui se casse la gueule et qui ferme, hein, qui soit démantelé ou va savoir. Hein, parce que les mecs, ils sont vraiment sur borderline hein, au niveau des dépenses et tout ça. On parle d'entrée en bourse, mais c'est repoussé, etc. Et puis, et
ils ont mis
effectivement, tant
beaucoup,
que.
ils ont mis beaucoup,
Ils ont
beaucoup,
mis
beaucoup
beaucoup.
d'argent sur la table.
Beaucoup
Et
trop,
en bon investisseur américain qui sont, à un moment donné, il faudra where's my money back,
il
quoi.
faudra passer la caisse, hein,
Tu vois, et en fait, c'est comme, si tu veux, si à un moment donné, je te crois plus sur le fait que tu es capable de rendre mon argent, tu vois, bah, ça risque d'être compliqué. Après, ils peuvent aussi arriver, et là on tombe on sort du dev, mais c'est en mode ils sont tellement gros qu'en fait ils arrivent à un point où ils sont too big to fail, tu vois. En fait, ils sont tellement gros qu'ils ne peuvent plus s'effondrer parce que ça serait un raz-de-marée total pour toute l'économie. Et donc, ils ont atteint un point où ils sont tellement gros qu'ils sont protégés par ce statut. Et quoi qu'il arrive, en fait, il y aura quelqu'un qui mettra la main à la poche pour survivre, parce que surtout chez les Ricains, parce que, et ils l'ont compris, il y a une sorte de souveraineté américaine où on ne peut pas s'effondrer. Et donc, c'est hyper important de garder ça en tête, de dire que, OK, il nous faut il faut qu'on soit les leaders. Donc, s'il faut, pour faire court, que si c'est le contribuable américain qui doit payer la bulle spéculative de l'IA, j'en sais rien du tout. Toujours est-il que nous, on est plutôt bien encore en ce moment.
Oui, pour l'instant, pour nous, on s'en sort. Après, les devs, on consomme beaucoup et beaucoup plus que la moyenne. Donc, on est quand même à part et dans une bulle. Mais aujourd'hui, ils sont vraiment obligés de gagner de vendre voilà, de vendre des abonnements, etc. Si demain ça s'écroule, ils sont dans la merde. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, ils baissent, ils augmentent pas trop les prix et tout ça. Mais c'est chaud quand même. C'est chaud parce que ouais, l'économie américaine est surtout basée sur la techno en ce moment et c'est un peu
c'est
tendu,
elle,
quoi. Il...
C'est elle qui drague la
Ah, c'est elle
techno
qui
et
drague. Hein. Ah, ouais.
qui tu vois, donc chaud, quoi. Chaud, chaud.
Ouais. Dernier truc sur ce rapport, c'est à la fin, c'est le risque, en fait. Ils disent si les labs fermés contrôlent le harness, hein,
Ah.
l'open source perdra en déploiement. En gros, voilà, si on n'utilise que des harness fermés, ben forcément, on aura moins d'open source disponible. Donc voilà, pensez à ça quand
Ah, intéressant, intéressant de voir le move,
même.
de voir le truc.
Ben, c'est par les outils, en fait, que finalement, on consomme des tokens. Et ces outils, s'ils sont fermés, ben, ne serait-ce que Cursor, par exemple, ben, on va forcément utiliser du Grok, etc. Et pas des outils, des modèles open. Quoi.
Yes, ouais, carrément, carrément. Justement, bah, si on veut faire son propre harnais et faire son propre logiciel, ou en tout cas où on va interférer avec des agents qui vont générer du code, il y a une librairie qui s'appelle AI CSS qui nous sort, en fait, et qui nous donne accès à des composants un peu tout près qu'on a déjà l'habitude de voir. Donc sur l'état, voilà, il est en train de réfléchir, des petits loaders. Là, on va dire que c'est un peu classique, mais surtout des composants type file diff, en fait, où on va voir la différence sur les textes output avec tout ce système de stream qu'on connaît. Pareil pour l'affichage du code, des tableaux, des to-do, des questions, des checkbox, des chatbox, évidemment. En fait, tout cet écosystème de composants qui est un petit peu dédié pour créer un harnais, ou en tout cas une interface chat qui va utiliser un agent. Là, il y a toute une librairie de composants qui est déjà prête à l'emploi, quoi.
J'avais pas regardé en détail, c'est basé sur quoi ce truc? C'est du CSS, il y a quoi? C'est du TypeScript, c'est quoi? Il y a une techno?
Je
On peut
crois que
voir, hein, dans un composant.
c'est basé sur
Ah ouais.
du React.
Encore du React, bravo.
Ouais, c'est du React. C'est du React. Donc, en fait, ouais, c'est pas du CSS pur, c'est du React
Ah oui, il y a du glycine, des trucs pour
avec
les icônes.
du... Donc,
Ok.
ouais.
Ouais, non, mais c'est pas mal,
Si,
c'est propre, c'est propre.
c'est exactement, c'est propre, ça fait le job, c'est
Ouais, si
plutôt...
tu veux faire un chatbot sur un site ou n'importe quoi, ça peut être pas mal pour gagner du temps. Après, je sais pas
Yes.
comment ça marche, tu vois, les trucs output là, comme le file diff, tout ça là. Est-ce que c'est une sorte d'élément qui est disponible à l'agent et il sait qu'il peut l'utiliser pour mettre son code dedans? Je vois pas trop. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais j'ai jamais fait ça.
Bah, tu iras voir, tu iras voir, tu iras voir.
Ouais, je vais
Tu
aller voir, ça m'intéresse.
regarderas, mais tu vois, là en fait, on voit que c'est des. Tu prends chaque ligne, et donc en fait, tu dois aller inspecter chaque ligne pour marquer s'il y a une diff, si c'est un ajout ou une échange. Donc en fait, tu dois quand même louper sur toutes tes lignes pour pouvoir
Ouais.
afficher de manière correcte, quoi. Mais bon, le job est déjà fait. Toi, tu n'as plus qu'à gérer, en fait, tes différences de fichiers et les formater avec telle
Ouais, parce que ouais, du coup, là, ouais,
cette
c'est ça, ouais.
structure,
Parce que là,
quoi.
tu les raw, tu lui donnes en props, donc du coup, l'agent pourrait très bien donner ce tableau, enfin, cet objet en props, et puis ça rendrait, ouais.
Ouais, donc
Ouais, je sais pas si c'est facile à utiliser, mais en tout cas, c'est propre, ouais.
ouais, à voir. Allez, on reste dans ce niveau agentique harné.
À planter ou... Ah, c'est bon,
Pardon.
on t'entend.
Pour le coup, c'est Vercel qui revient avec un truc qui s'appelle fx.sh. C'est un micro tout petit, tiny, open, un outil agentique de coding. Donc, c'est vraiment un harnais le plus minimal possible. Et j'ai un peu l'impression qu'il se rapproche un peu de Pi, qu'on peut voir, oui, qui est vraiment un harnais ultra minimaliste qu'on vient customiser nous-mêmes. Et donc, c'est tout nouveau, c'est tout récent, c'est Mega Early Stage 004. Toi, tu l'as installé, ça n'a pas duré longtemps.
Ouais, il est écrit en Zig, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les retours du Zig. Donc, il est écrit en Zig, il est super light, il fait 6,39 MO, donc ça pèse rien en fait. Il est hyper rapide à se lancer. Je l'ai installé, j'ai dit, ouais, super, je l'ai installé. Et là, je le lance. Et fait, bon, bah, mets-moi ta clé, ton token pour, comment ça s'appelle, Vercel API. Et là, je fais, non. Et j'ai scoopé, j'ai désinstallé direct. En fait, il est mono-provider, en fait. Et donc, Vercel. Et bah, du coup, c'est dommage. Hein. J'aurais bien voulu mettre un autre provider.
Ouais. Après, tu vois, il dit que tu peux l'utiliser avec des modèles locaux.
Ah ouais, j'ai pas vu ça. Ouais, j'ai pas fouillé la doc, mais peut-être ça a changé. Ouais, parce qu'il est sorti hier. Alors
c'est comme ça qu'il l'annonce. Ah ouais, et après, t'es peut-être obligé. Tu vois, si tu veux utiliser les modèles de chez Vercel, bah, t'es obligé de faire ton login. Ou tu peux faire FX Setup pour un local credential. Donc, c'est-à-dire si tu as un Olama qui tourne ou des trucs comme ça.
Ouais. Peut-être qu'on peut en mettre d'autres.
En local, et tu peux utiliser n'importe quel API gateway. Changes ton login par setup et normalement ça devrait pouvoir essayer. En tout cas,
je vais réessayer du coup.
Ouais, bah ouais, mais c'est tout petit. Tu as une CLI qui fait le job. Après, j'ai du mal à voir le use case vraiment, tu vois, sur un truc ultra ultra minimaliste. Je vois pas l'intérêt, tu vois, enfin, mais peut-être que je suis trop dans mon gros curseur méga fat, complètement obèse, peut-être, hein. Mais
bah, moi maintenant avec React Compiler, mais
ouais, voilà.
Mais c'est le truc codé. Franchement, je sais pas à quel moment on a basculé sur la console pour coder avec Clockcode et compagnie. Je sais pas à quel moment ça a basculé en fait. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est pas tous les devs qui sont fans de coder dans la console directement, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, Codex a fait un gros retour, je pense en partie à cause de ça, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément être dans la console toute la journée, tout ça, et qui avaient besoin d'une interface. Et Codex est revenu avec une interface assez claire, tout ça, et il a eu du succès. Donc, ouais, après, c'est mitigé. Il y a des gens qui aiment bien Cloud Code, d'autres qui préfèrent un vrai éditeur, tout ça, ou Codex, ou des trucs comme ça, ou Cursor avec l'interface agentique, là. Après, peut-être pour des micro-tâches, demander des petits trucs, des trucs comme ça, je sais pas. Ouais. En tout cas, là, il a l'avantage de se lancer très très vite.
Ouais, j'ai pas exactement à tester et on
après,
fera...
ça peut être aussi intéressant. C'est un usage qu'on n'y pense pas forcément tout le temps, mais tu le mets sur un serveur, par exemple, et tu le lances en SSH et tu lui demandes de faire des trucs, tu vois, par exemple. Installe Apache ou des trucs comme ça, je sais pas. Après, c'est un usage particulier, mais
ouais, ça peut se tenir. Ça se tient, ouais. Ça se tient. Yes. Allez, on reste dans l'univers dev. Si vous êtes là depuis très longtemps dans le game du développement web, vous avez dû connaître la fameuse... l'acronyme LAMP, Linux, Apache, WAMP, MySQL, PESH, WAMP ou MAMP.
Qui n'a pas codé avec WAMP.
Exactement. si vous êtes dans l'écosystème PHP, là, en fait, vous avez un peu l'environnement local qui est complètement installable directement sans Docker qui va utiliser...
Ouais, sans Docker, ouais.
Podman, on a du PHP et du Node qui est directement installé, pas de pollution, qui va gérer toutes les bases de données avec tous les petits mots qui vont bien, AI, MCP, tout ça. Ça s'appelle
Lerd,
Et c'est open source, ouais, trop bien.
C'est open source surtout. Alors, on a déjà des outils hein, en tant que développeur PHP. On a pas mal. Il y a Herd, H-E-R-D, qui est de chez Laravel, qui est un outil free et après payant si tu veux plus de fonctionnalités. Moi, j'utilise beaucoup DDEV, qui est un environnement qui est basé sur Docker aussi, un peu plus lourd. Et ça, après, il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Mais celui-là, le Lerd, je l'ai essayé, je l'ai installé, dès que je l'ai vu, je l'ai installé hier. Et c'est pas mal du tout, en fait. Donc, ça utilise Podman, tout ça, machin. Donc, sur Mac et Linux, du coup, bah, pas sur Windows, mais qui code avec Windows, franchement. Et là, on va se recevoir des commentaires d'insultes, en fait.
Ouais, c'est ça. Là, on vient de perdre la moitié des mecs qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. On les a perdus à jamais.
Ouais, c'est bien Windows. du coup, tu l'installes, c'est utilise Podman, donc c'est pas Docker, c'est pas vraiment plus léger, mais c'est du coup, t'as pas besoin de lancer Docker, tout ça, machin, c'est pas mal. Et après, t'as une interface, t'as une sorte de dashboard que tu vas lancer dans le navigateur, et du coup, tu vas pouvoir soit gérer tes sites avec la CLI ou la CLI. J'aime bien dire ça. Donc, il y a des gens qui disent CLI. Donc, si vous disiez CLI, vous pouvez l'utiliser aussi. Donc, tu peux créer des sites, machin, tout ça. Tu peux ajouter des bases de données, tout ça. Et tu as tout un dashboard. Tu peux mettre en pause et tout. C'est vraiment bien fait, en fait. Et j'ai trouvé ça pas mal. J'ai testé hier. Au début, tu dis, ouais, ça a l'air compliqué. Finalement, c'est pas si compliqué et c'est pas mal du tout. Et ça gère la version de Node, de PHP et tout. Donc, c'est cool. Nice. Donc, ouais, bon petit outil.
Classe. Super, super classe. Et il y a un petit benchmark de tous les acteurs. Tu parlais de DDEV, de Lando, bah, de Herd, Sales, de Herd. Et lui, il a tout coché. Donc,
voilà. Il a parce qu'en plus, il a des MCP, tout ça. Donc, du coup, tu vas, via ton agent, tu vas pouvoir lui faire faire des choses directement. Et tout. C'est pas mal.
Nice.
Ou d'ailleurs, où il a déjà, moi avec des devs, des fois il a un peu du mal à effectuer des actions. Et il faudrait que je teste avec celui-là.
Excellent.
Et tu vois, il y a tout. Pour dire, excellent. Tu vois, MySQL, Postgres, Redis, MiCherch, j'ai pas vu ça. MailPit, qui est un. Alors pour ceux, si tu sais pas ce que c'est MailPit, c'est en fait quand tu envoies des emails via ton site, MailPit les intercepte et du coup ça part pas et tu as une sorte de boîte de réception, c'est pas mal. Voilà, c'est vraiment cool quoi. Et le Stripe moque aussi pour générer des faux paiements. Tout.
Pour moquer tes... Ouais, top. Belle, super bel outil. Et autre outil, je ne vais pas dire indispensable, mais en tout cas super confort. ça s'appelle Codex Bar. Et quand on utilise Codex, Claude, Cursor, Perplexity, Eleven Labs, tout ça, on va pouvoir brancher tous les providers où on va consommer des tokens. Et en fait, on va avoir une vision, en fait, une visualisation de notre session, évidemment, pour ceux qui sont sur Cloud Code et tout ça, de combien de temps il nous reste, de combien de tokens on a croqué. Et on l'a directement dans la fenêtre en haut, super léger, super sympa. Tu vois ce que tu consommes. Parfois, ça te fait un peu peur de tout ce que tu consommes. Mais...
Tu vois le vrai prix consommé aussi. Ça,
exactement.
Tu dis merde.
Et là, tu te dis, waouh, heureusement qu'on ne peut pas ce prix-là.
Je ferai jamais ça.
Exactement. Exactement.
Mais non, c'est que sur Mac, par contre, faut signaler quand même. Mais
J'avais pas fait gaffe à ça.
Ouais, c'est que sur Mac. Enfin, okay. Il me semble, hein, parce que c'est download for. Mais par contre, ouais, c'est pas mal. Moi, je connaissais pas. Hein, tu me l'as filé hier le lien et du coup, j'ai rajouté dans les news parce que j'ai atteint ma limite Cursor et du coup, j'ai installé ça.
On peut le faire directement depuis le terminal aussi où on a une petite visualisation. Ouais. Et je suis assez fan aussi sur Mac, en fait, vous avez des widgets et en fait, voilà, depuis l'interface, on a tous les widgets qui vont bien et où on peut visualiser tout ça. C'est assez bien fait, c'est souvent mis à jour, c'est top. Moi, je le gros fan, j'utilise beaucoup au quotidien, quoi.
Ouais, puis en plus ça se met tout seul, ça se branche tout seul quand je l'ai installé là. J'ai un petit bug, j'ai le setting qui s'ouvre, ça reste blanc, alors tu le fermes, je sais pas pourquoi, ça déconne.
Et mets-le à jour, ça passe.
Ouais, faut que je le mette à jour. Ouais. Mais derrière, c'est connecté tout seul à Cursor, j'ai rien eu à installer, quoi que ce soit. Il a été chercher lui-même le truc.
Exactement. C'est pas mal. Exactement. Non, c'est petit outil super sympa. Patrick, je te propose qu'on en reste là pour cet épisode. On a fait le tour de l'actualité du mois d'août. Évidemment, si vous êtes resté jusqu'au bout, on vous remercie beaucoup. Un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. On vous dit pas la musique parce que vous la connaissez. Donc, un grand merci à vous. Merci à tous les sponsors qui le font sur GitHub Sponsor. Vous pouvez le faire. Et ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous aide à payer tous les serveurs et tout le système qui est mis en place pour le podcast. Merci à vous. À bientôt.
Ciao.